Frères et sœurs, et vous d'abord, chers catéchumènes, que je vais appeler à recevoir l'initiation chrétienne. La parole de Dieu vient de retentir à nos oreilles. Lorsqu'on lit les Écritures, à la communauté rassemblée, c'est Jésus qui parle. C'est donc bien la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Car la parole, ce n'est pas le livre qui nous est lu, c'est le Christ qui nous parle à travers le livre. Et la parole de Dieu nous parle aujourd'hui du projet de Dieu sur nous. À travers un langage symbolique, imagé, le livre de la Genèse nous dit ce que Dieu souhaite pour nous. Dieu nous souhaite libres et heureux. C'est ce que signifie le jardin d'Éden. Un jardin où l'homme est comblé, où il n'est pourtant pas la marionnette de Dieu. Un bonheur qui est dans la confiance partagée avec Dieu. Pour des orientaux qui écrivent ce texte, le jardin, c'est le lieu de la fraîcheur, de la tranquillité, de la paix, celui où l'on peut se promener tranquillement. Et donc ça signifie ce projet de bonheur de Dieu pour nous, ce projet de vie de Dieu pour nous. Ce bonheur qui est que dans la confiance partagée, mais nous le savons par notre expérience quotidienne, quand la confiance fait défaut, il est difficile de partager le bonheur. De même, Dieu envoie Jésus dans le monde pour qu'il y nourrisse spirituellement les hommes. C'est d'abord pour ça que Jésus vient, pour que nous soyons nourris. Ce que signifiera dans l'Évangile la multiplication des pains. Pour qu'il y soit porté par les anges et préservé de la mort, c'est ce que montrera sa résurrection. Et pour qu'il domine le monde. Pourtant, sur la route des hommes, sur la route de Jésus, se présente une mauvaise rencontre qui vient éprouver leur confiance en Dieu. Le serpent, belle image du mal, insinue le soupçon en travestissant la vérité. Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas le fruit d'aucun arbre du jardin. C'est-à-dire, Dieu ne vous veut pas heureux et libre. Il vous veut sous sa dépendance étroite. La femme, dans un premier temps, rétablit la vérité. Dieu n'a pas interdit le bonheur. Il a mis en garde contre l'orgueil d'en savoir autant que Dieu. Parce que ce pourrait être alors la fin de la confiance. Du coup, le serpent va plus loin et suggère que Dieu a peur de l'homme et qu'il en est jaloux. Et voici que l'homme et la femme tombent dans le panneau et décident de ne plus faire confiance à Dieu, pire, de prendre sa place. Et aussitôt, ils découvrent leur misère. Ils voulaient connaître, ils connaissent, ils sont nus. Ils sont faibles, et très vite, c'est la suite du récit, la confiance qui n'est plus en Dieu n'est plus non plus entre eux. Si on lisait quelques versets suivants, quand Dieu rencontre l'homme et la femme dans le récit, l'homme dit « c'est la femme que tu m'as donnée », et la femme dit « c'est le serpent ». Il n'y a plus de confiance. Et on sait que dans le récit de la Genèse, tout cela va aboutir au premier meurtre. La jalousie entre frères qui conduit Caïn à tuer Abel. Mauvaise rencontre et mauvaise réponse. Dans l'Évangile, Jésus fait la même rencontre. Il est au désert, un lieu où l'on est vraiment nu, où il n'y a rien, où l'on ne peut compter que sur Dieu. Le peuple d'Israël a fait cette expérience du désert et ça s'est plutôt mal passé. Ils ont soupçonné le Dieu qui venait de les libérer de vouloir les faire mourir. Ils n'ont pas cessé de le harceler pour des questions de nourriture et même ils l'ont remplacé par une statue de bovin. Jésus expérimente la même épreuve. Lui qui va multiplier les pains éprouve la faim et se voit suggérer de se nourrir lui-même par un tour de magie. Lui qui est le Fils de Dieu, promis à la résurrection, se voit proposer de mettre le Père à l'épreuve en lui imposant un coup de pub. Lui qui est venu pour établir le royaume de Dieu se voit proposer de devenir roi pour lui-même en s'inclinant devant le mal. Mauvaise rencontre. Mais ici, c'est Jésus qui a le dernier mot. Et à chaque fois, le dernier mot n'est pas de lui, Jésus, mais il vient de la parole que le Père nous adresse. Chaque fois, Jésus répond en citant l'Écriture et en rapportant toutes choses à Dieu en qui il se confie. Attention, citer l'Écriture n'est pas une garantie. Dans notre texte, le démon cite l'Écriture, mais il la cite pour la mettre à son service, alors que Jésus ne la cite que pour renvoyer à Dieu et à sa seule seigneurie. Jésus ne tombe pas dans le panneau, parce qu'il est tout entier tourné vers le Père, alors que l'homme et la femme du récit de la Genèse ne sont préoccupés que d'eux-mêmes et de leurs désirs. Pourquoi est-ce que j'ai bâti mon commentaire des Écritures sur le thème de la rencontre, et ici de la mauvaise rencontre? Parce qu'en lisant vos lettres, j'ai été frappé par la place que tient la rencontre dans votre cheminement jusqu'à aujourd'hui. Rencontre parfois douloureuse pour certains d'entre vous. La maladie, l'hospitalisation, la mort d'un ou de plusieurs proches, l'exil, le pays qu'il a fallu quitter. Qui étaient vraiment des épreuves et vous auriez pu mettre en doute la confiance en Dieu. Pourtant, pour plusieurs, ces rencontres douloureuses ont été au contraire des moments qui vous ont fait découvrir le Dieu de Jésus-Christ. Mais c'est parce qu'alors, vous avez rencontré des personnes. Tous, même ceux qui n'évoquent pas de rencontres douloureuses, tous vous présentaient comme déterminants des rencontres humaines. Un prêtre, des chrétiens, des proches, grands-parents, enfants, conjoints, amis, voisins, une communauté. J'étais frappé de la place que tient la communauté chrétienne dans le témoignage de beaucoup d'entre vous. À travers ces rencontres, vous avez fait, je l'espère, la rencontre véritable, celle du Seigneur Jésus. C'est lui qui, en venant vivre nos épreuves, nous montre comment les surmonter par la confiance en Dieu. C'est lui qui va vous donner l'Esprit Saint, cet Esprit qui l'a conduit au désert pour y devenir notre compagnon d'épreuves et qui nous permettra de trouver les réponses justes aux difficultés de notre foi. Une de vos lettres évoque la peur de la mort. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus partagea notre condition mortelle afin de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans la situation d'esclave. C'est au chapitre 2 de la lettre aux Hébreux. Et comment cela se fait-il? Parce que Jésus nous donne la vie de Dieu. Sa vie, il nous la donne en nous donnant l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Au moment de votre baptême, vous serez plongé dans la mort que Jésus est venu habiter sur la croix. N'ayez pas peur, laissez-vous mourir avec lui. C'est pour recevoir une vie que rien, pas même votre mort à venir, ne pourra détruire. Une vie qui vous fera traverser vivant la mort. Puis vous serez marqué de l'huile de joie pour recevoir l'Esprit Saint et devenir semblable à Jésus. L'Esprit qui déjà vous a conduit dans votre route vers le Christ vous donnera sa force pour qu'à votre tour, vous fassiez connaître l'Évangile à vos frères et il vous enverra en mission. Puis vous communierez au corps et au sang du Christ. Alors vous serez pris en lui, membre de son corps, présence du Seigneur au milieu du monde. Ce repas qui vous unit à Dieu et à l'Église, ce repas qui vous envoie vivre fraternellement parmi les hommes, ce repas est aussi un sacrifice, c'est-à-dire qu'il vous unit à l'offrande que Jésus fait de lui-même à son Père. Maintenant que vous allez être appelés, vous connaissez la route. La route, c'est Jésus lui-même. Il faut vivre comme lui, ou plutôt se laisser vivre par lui. Pour cela, il faut de jour en jour approfondir notre connaissance de sa personne par les Saintes Écritures, lues et partagées en équipe, en communauté, mais aussi dans le silence de notre cœur. Il faut entrer dans son intimité par la prière, une prière qui petit à petit envahit toute notre vie. Il faut préparer notre cœur, votre cœur, à recevoir la lumière du baptême, le feu de la confirmation, le corps et le sang de l'Eucharistie. Et nous, les vieux chrétiens, et il y en a ici, il faut renouveler en nous la fraîcheur de ces redécouvertes, en demandant pardon pour nos péchés et en entrant dans le chemin de la conversion. Ensemble, appelés d'aujourd'hui, illuminés d'hier, parcourons ce carême, comme le temps où Dieu passe dans nos vies, où il les transforme, où son projet de bonheur est accueilli dans cette confiance renouvelée et vitale que nous appelons la foi.